Au Burundi, l'eucalyptus est un arbre omniprésent. Il se répand au marché de bois comme dans les plantations paysannes. Ce bois garni de ménages en meubles sur lesquels les Burundais s'assoient ou dorment. Il crée beaucoup d'emplois et de richesses pour les familles rurales, urbaines et l'État. En prime, il est le moteur de la cuisine burundaise. Malgré les opportunités économiques que l'eucalyptus offre, il peut s'avérer néfaste pour l'environnement. Il consomme beaucoup d'eau et provoque l'assèchement et le tarissement des sources et de cours d'eau. L'eucalyptus empêche également par son essence dégagée le développement des animaux comme les insectes et les oiseaux. L'exemple de la province de Kayanza est assez éloquent. Alors, faut-il continuer à répandre l'eucalyptus dans le pays? Professeur André Nduwimana, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, dans la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie, et auteur de l'article scientifique « Regard critique sur les impacts socio-économiques et écologiques du peuplement d'eucalyptus au Burundi », nous éclaircit ce sujet difficile à répondre. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié un article scientifique intitulé « Regard critique sur les impacts socio-économiques et écologiques du peuplement d'eucalyptus au Burundi ». Aujourd'hui, on aimerait que vous nous en disiez un peu plus. Comment est-ce que les eucalyptus sont apparus au Burundi?
Les eucalyptus sont apparus en Afrique, au Burundi, à partir d'abord australien, parce que c'est là où on a les eucalyptus. Puis les eucalyptus ont été introduits en Afrique, pas directement au Burundi, et c'est dans les années 1970 que les eucalyptus ont été introduits au Burundi dans un cadre de reboisement.
Pourquoi alors on a introduit les eucalyptus?
L'introduction des eucalyptus, c'est la même chose que des autres espèces arborées. C'était pour pallier au problème d'accessibilité au bois, parce que le bois naturel, vous voyez, le milieu burundais, c'est un bois qui n'est pas riche en boisement. Il y avait des besoins croissants en matière de bois d'œuvre et en matière de bois de service et de bois de cuisine. Et là, vous comprenez que quand on est dans ce genre de besoin, il fallait chercher des espèces qui avaient été testées ailleurs, qui avaient montré des potentialités de pouvoir se multiplier rapidement et subvenir aux besoins des populations. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les eucalyptus et même les autres espèces comme les pinus ont été introduits au Burundi.
Et pourquoi les eucalyptus sont beaucoup cultivés que les autres espèces d'arbres?
Ah, les eucalyptus sont beaucoup prisés. Bon, c'est à cause de leurs propriétés. Et les eucalyptus, d'abord, c'est un bois qui est dur, n'est pas facilement attaqué par des insectes, qui dure lorsque vous l'utilisez dans la construction. C'est un beau bois, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous formez des troncs qui sont quand même un peu qu'on peut scier, qu'on peut utiliser dans diverses activités. Et troisièmement, c'est le pouvoir aussi calorifique. Vous allez voir que quand vous utilisez par exemple le charbon provenant des eucalyptus, ça n'a rien à voir avec les autres espèces locales. Et quatrièmement, c'est au fait que l'eucalyptus n'est pas très exigeante. Ce sont des arbres qui peuvent un peu pousser partout, là où on n'a pas beaucoup de matière nutritive du sol. Et ceux qui sont ingrates. Pour les cactus, il n'y a pas de problème. Et la cinquième raison, c'est que ces espèces qui rejettent. Vous coupez les cactus après 6 ans, après 3 ans, après 4 ans, c'est-à-dire ça rejette 2 ou 3. C'est économiquement rentable pour le paysan qui a cultivé ça. Et donc, vous voyez pourquoi, au niveau de la population, cette espèce est trop prise.
Sur l'aspect social et économique, quel est son impact?
D'abord, sur l'aspect économique, aujourd'hui, vous avez que le Burundi fait face à des déficits en bois. Quand vous regardez, presque 90% du bois qui est vendu, presque 90% du bois qui est utilisé au Burundi, ça c'est de l'eucalyptus. Et quand vous allez un peu partout sur le territoire burundais, vous trouvez des boisements d'eucalyptus. C'est-à-dire que l'eucalyptus est presque exclusivement l'espèce qui est là pour lutter contre, bien sûr, cette déficience en matière de quoi? En matière de bois. Si vous allez au niveau des planches, si vous allez au niveau des outils utilisés à menuiserie, partout vous trouvez que c'est l'eucalyptus qui domine. Donc l'eucalyptus aujourd'hui est une espèce pratiquement incontournable pour le Burundi lorsqu'il faut satisfaire les besoins en bois. Économiquement rentable et bien sûr très utilisé.
Vous dites qu'on aurait des problèmes.
On aurait des problèmes parce qu'aujourd'hui, si on a même quelques aires protégées qui sont préservées, c'est à cause de l'eucalyptus. Ça, c'est un. Ensuite, vous avez des zones dégradées, des zones qui sont très arides, qui ont été quand même reboisées en eucalyptus. Et ça, c'est quand même quelque chose écologiquement positif. Des fois, on l'accuse. Moi, je vous dis que non, il ne faut pas l'accuser. Parce que quand vous regardez Burundi, vous allez trouver des sols aujourd'hui qui seraient très dénués. Si s'il n'y avait pas de l'eucalyptus. Aujourd'hui, ce sont des sortes, disons, restaurées un peu, parce qu'il y a de la matière organique.
Tout à l'heure, vous avez dit que l'eucalyptus contribue à conserver les aires protégées. Mais comment?
J'ai dit, c'est pas protégé comme tel, c'est la conséquence. J'ai dit, s'il n'y a pas les eucalyptus, c'est-à-dire que les populations iraient chercher du bois au niveau des aires protégées. C'est-à-dire que ces aires protégées seraient déforestées. Donc, ne seraient pas là. Déjà, c'est une action indirecte. C'est-à-dire, le fait d'avoir du bois, ok, empêche les populations d'aller se rouer sur les aires protégées. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est un volet qu'il faut quand même privilégier. Partout où on a des aires protégées, et si on plante des eucalyptus, les populations ne vont pas s'adonner au défrichement de ces aires protégées. Ça, c'est un rôle important. Mais bien sûr, quand vous regardez l'eucalyptus, par exemple, ici au Burundi et même ailleurs, l'eucalyptus a des défis écologiques parce que c'est une espèce qui pompe beaucoup d'eau, parce que l'eau, c'est un élément qui entre dans la photosynthèse. Et l'eucalyptus, c'est une espèce, à cause de son essence, qui ne permet pas vraiment la prolifération de la vie des animaux. C'est-à-dire, vous n'allez pas trouver beaucoup d'insectes là où il y a l'eucalyptus. Vous n'allez pas trouver beaucoup d'oiseaux là où il y a des eucalyptus.
Vous pouvez nous dire un peu plus comment est-ce que les eucalyptus provoquent l'assèchement des sources d'eau?
Ça a été testé que l'eucalyptus pompe de l'eau. Et quand vous allez voir les populations, elles ont tendance à planter les eucalyptus là où il y a de l'eau. Quand elles plantent dans ces milieux, ce sont des milieux qui sont même très fertiles. Et l'eucalyptus va profiter de ces conditions pour grandir rapidement, pour donner un bois vraiment de bonne qualité. Là, les populations vont privilégier cet aspect économique en oubliant que c'est de l'eau qui est en train d'être pompée. Et quand c'est de l'eau qui est en train d'être pompée, voilà, c'est-à-dire que ça va provoquer le dessèchement. D'un côté, vous gagnez le bois, et de l'autre côté, vous perdez les qualités de quoi? Les qualités de l'environnement, les qualités de l'eau, les qualités du milieu dans lequel vous avez planté l'eucalyptus. Mais si vous analysez des biens, il y a des études, je l'ai fait dans mon article, qui ont été faites pour comparer l'efficience d'utilisation de l'eau. L'eucalyptus n'est pas l'espèce qui utilise mal l'eau par rapport aux autres espèces. Parce que quand on regarde la matière sèche produite par unité d'eau utilisée, vous trouvez que l'eucalyptus est une espèce très efficiente. C'est-à-dire qu'il utilise son eau de façon efficiente. Quand vous prenez les trypsacomes, quand vous prenez les autres espèces, ça consomme de l'eau. Quand vous regardez la quantité de matière produite par rapport à la quantité de l'eau qui a été utilisée, ces espèces, les graminées-là, dépensent beaucoup de l'eau que l'eucalyptus. Mais bien sûr, en termes de quantité prise, parce que c'est l'eucalyptus qui produit beaucoup de matière sèche, c'est-à-dire que c'est l'eucalyptus qui va pomper beaucoup de l'eau.
Mis à part la consommation excessive de l'eau, y a-t-il d'autres effets négatifs?
Ces espèces d'eucalyptus ont des effets allélopathiques, c'est-à-dire qui empêchent les autres espèces de faire quoi? De pousser dans le voisinage. Vous allez également avoir un impact sur le sol, hein, parce que la biodiversité du sol va aussi avoir des effets négatifs. Et quand il y a des effets négatifs sur la biodiversité du sol, c'est-à-dire qu'à ce moment, le sol ne sera pas bien couverti. Donc, vous comprenez qu'un sol où il y a des eucalyptus, ce n'est pas un sol aussi fertile que ça. Mais c'est plus qu'un sol qui est nu. Donc, il y a des effets sur le sol, la fertilité des sols, il y a des effets négatifs sur la biodiversité. Mais quand vous regardez, il y a d'autres effets positifs qu'on peut bien sûr profiter des eucalyptus. C'est notamment le microclimat. Quand vous allez passer, par exemple, à Bugarama, quand vous passez dans le bois d'eucalyptus, vous allez sentir qu'il y a un climat quand même doux. C'est-à-dire que les plantes, les eucalyptus vont essayer de limiter le rayonnement. Les eucalyptus vont séquestrer le gaz carbone. Ça, ce sont des effets importants sur l'environnement. Donc, il y a des effets importants. Il y a des défis écologiques, mais tous les défis peuvent être gérés pour minimiser les défis et maximiser quoi, les impacts positifs.
Vous avez parlé que les eucalyptus ont des effets négatifs sur le sol, mais dans votre article aussi, vous soulignez que les eucalyptus contribuent aussi à protéger le sol. C'est comment alors?
Bien sûr, quand vous avez plantation d'eucalyptus, vous allez voir que l'eucalyptus va lutter contre l'érosion, parce que quand vous avez le sol, vous le protégez contre l'érosion. Quand vous avez des sols dénudés, si vous avez des sols qui sont rocailleux, quand vous avez les racines qui vont pénétrer ces roches, c'est-à-dire que ça va contribuer à la formation d'un sol. J'ai dit, il y a des effets négatifs, mais il y a des effets positifs. Hein. Donc, il faut tirer profit des effets positifs, essayer de minimiser les effets négatifs.
Mais comment peut-on réduire alors les effets négatifs?
Il y a deux voies. D'abord, c'est savoir où planter l'eucalyptus. Moi, je dirais planter les eucalyptus dans des sols qui sont des sols pas très fertiles, pas très utilisés par les populations. Dans des sols qui sont un peu éloignés de quoi? Des sources et des cours d'eau. Hein. Planter les eucalyptus dans des zones qui sont quand même où les autres espèces n'ont pas pu se développer. Ça, c'est les crêtes de collines et tout ça. Quand vous plantez les eucalyptus à ce niveau, ça marche. Et ça, c'est un. Deuxièmement, si vous plantez même des eucalyptus dans un endroit qui est relativement fertile, essayez d'espacer. D'espacer, pourquoi? Parce que vous allez voir permettre le développement d'autres espèces dans ce bois d'eucalyptus. Ou bien si vous n'espacez pas, faites des cultures mixtes, c'est-à-dire prenez des eucalyptus, mélangez avec les autres espèces, comme les acacias. C'est-à-dire que vous allez favoriser que la biodiversité soit votre monde. Donc, il y a plusieurs façons. C'est d'améliorer les pratiques culturelles et de sensibiliser la population sur les vrais défis écologiques et sur les vrais défis même au niveau économique pour pouvoir essayer effectivement de tirer profit des côtés positifs et d'essayer de minimiser les côtés négatifs. C'est possible.
Il y a des environnementalistes qui ont décrié l'eucalyptus. Pourquoi ?
C'est pas seulement au Burundi. Le dilemme eucalyptus, c'est un peu partout. Aller en Espagne, aller en Éthiopie, un peu partout au Sénégal. On a vu ses effets négatifs sur l'environnement. Mais lorsque vous regardez d'une façon et que vous décrivez le côté négatif, sans regarder le côté socio-économique, sans regarder effectivement les autres, hein, l'importance, les autres, disons, avantages, même écologiques, moi je dirais que c'est la façon dont les gens de la conservation procédaient depuis la création des aires protégées. C'était une vision de dire on protège, on protège, on protège, sans se rendre compte du côté social. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau paradigme de la conservation, c'est celui qui doit prendre en compte les besoins des populations. Tu ne peux pas dire je protège l'environnement en regardant seulement la conservation sans regarder l'ensemble, cette complémentarité entre l'environnement, le social et l'économie. C'est ça le développement durable. Aujourd'hui, on a dépassé ce cadre. On va regarder en effet, il n'y a pas des oiseaux. On dit là, c'est mauvais. Non, aujourd'hui, on doit avoir une vision vaste, complexe des problèmes de l'environnement. Les regarder dans le sens effectivement du développement durable. La conservation doit contribuer au développement durable. On conserve la biodiversité parce qu'on sait que la biodiversité effectivement est le développement durable. C'est lié. Il ne faut pas séparer les deux concepts.
Comment alors les concilier ?
C'est possible. D'abord, il faut le reconnaître. Et c'est ça le rôle des scientifiques. On produit des données, on produit des articles, on fait des sensibilisations. Il faut que les gens changent, hein, leur mentalité. Vous dites à la population coupez des arbres, coupez les eucalyptus, vous n'avez pas des espèces de remplacement. C'est-à-dire que les zones qui étaient protégées par l'eucalyptus vont devenir des zones dénudées. Est-ce que vous aurez contribué à la conservation ? Non, vous aurez contribué plutôt à rendre pire, hein, l'environnement qui était plus ou moins protégé même par l'eucalyptus. Donc aujourd'hui, vous allez attaquer l'eucalyptus en disant que le problème de l'eau qu'on a ici au Burundi, c'est le problème de l'eucalyptus. C'est faux. C'est pas l'eucalyptus. Et donc, on n'a pas une bonne gestion de l'eau et on va attaquer l'eucalyptus. Attaquer l'eucalyptus, vous n'allez pas résoudre le problème de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent dire la vérité, n'est pas seulement lire ce qui se trouve dans des écrits comme ça, sans y mettre de l'intelligence, sans regarder au niveau local ce qui se fait. Le rôle d'un environnementaliste, c'est de regarder, de faire des observations et de tirer des conclusions. C'est pas de répéter.
Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui cultivent dans les champs des eucalyptus. Est-ce que l'eucalyptus peut bien cohabiter avec l'eucalyptus ?
En fait, quand un agriculteur fait l'agroforêt, il a fait ses choix. C'est-à-dire, il voit la production et il voit aussi le bois. Et quand il les associe, c'est-à-dire qu'il voit un avantage. Moi, je vous dirais que l'eucalyptus n'est pas une espèce agroforestière. C'est une espèce forestière. Mais les populations ont compris l'importance de quoi l'eucalyptus. Ils les minimisent, ils acceptent de perdre au niveau de la production, mais de gagner au niveau de quoi de l'eucalyptus. Et vous allez trouver effectivement qu'ils vont prendre un pied d'eucalyptus, deux pieds dans une superficie d'au moins d'un arbre. C'est vrai que là, si la production va en dépoisse, surtout dans le voisinage de l'eucalyptus. Mais si on y met des amendements, c'est-à-dire, sauf là pour des espèces où qui sont beaucoup plus sensibles à l'allopathique de l'eucalyptus, on va avoir la production. Mais je vous dis que la production ne sera pas égale à la production qu'on aurait s'il n'y a pas l'eucalyptus. Parce que l'eucalyptus n'est pas une espèce agroforestière, c'est une espèce forestière. C'est-à-dire que celui qui le fait, il a besoin du bois, il n'a pas où mettre un arbre pour avoir le bois, il accepte de mettre l'eucalyptus. Il y met l'eucalyptus parce qu'il sait qu'il n'y a pas un autre arbre qui a les qualités de l'eucalyptus pour répondre à ses besoins. S'il en avait, il ne le mettrait pas.
Alors, revenons sur la consommation excessive de l'eau par l'eucalyptus. Faut-il s'inquiéter alors des plantations d'eucalyptus ?
Il faut s'inquiéter quand c'est mal fait. Mais il ne faut pas crier au désastre, hein, parce que ce sont des effets qu'on peut corriger. Il faut s'inquiéter lorsque c'est mal fait et il faut proposer des voies de correction.
Dans l'article, vous soulignez que l'eucalyptus ne consomme pas beaucoup d'eau.
L'eucalyptus consomme beaucoup d'eau. Moi, j'ai dit l'efficience. Donc, vous regardez ce que l'eucalyptus produit et ce qu'il a consommé. En termes bruts, vous allez trouver que l'eucalyptus dépasse les autres espèces en quantité d'eau. Mais quand vous regardez ce que l'eucalyptus a produit, ça vous allez dire, oh, l'eucalyptus ne consomme pas beaucoup d'eau. C'est comme si vous ne devriez pas comparer une chèvre à une vache. Quand vous comparez une chèvre à une vache, qu'est-ce qui boit beaucoup d'eau? Vous allez voir, la chèvre, si elle prend 5 litres par rapport à sa taille, et quand vous voyez que la vache prend 20 litres par rapport à sa taille, vous risquez de dire que la vache consomme beaucoup d'eau. J'ai donné un exemple. C'est-à-dire, vous ramenez à la taille, vous voyez ce qu'il a consommé. C'est ça l'efficience.
Je vais reformuler un peu la question. Vous dites que l'eucalyptus ne provoque pas l'assèchement des sources d'eau.
Si, ça peut provoquer, parce que c'est une espèce asséchante. Si vous faites une mauvaise pratique, vous la plantez à haut niveau des sources, au niveau des cours d'eau, oui.
Vous dites qu'il provoque beaucoup l'assèchement des sources d'eau lorsque ces sources d'eau ne sont pas suffisantes.
Bon, je dis que quand vous avez une plante, ok, qui consomme beaucoup d'eau, s'il y a trop d'eau, beaucoup d'eau, il n'y aura pas de problème. C'est en fonction de sa capacité de consommation. Mais généralement, si vous avez besoin, par exemple, vous avez un milieu trop humide et que vous voulez quand même que ce milieu soit un peu asséché, c'est-à-dire pour être cultivé à long terme, vous pouvez planter des eucalyptus, les utiliser comme des espèces d'assèchement. Mais si vous avez un milieu, des sources où vous avez de l'eau à protéger, ne plantez pas les eucalyptus. Parce que les eucalyptus pompent beaucoup d'eau. Et vous avez plus de 200 litres par heure. Imaginez-vous, plus de 200 litres par heure pour une plante.
200 litres.
Ouais, quand vous avez une plante bien avec un cime, oui, l'évapotranspiration, oui, c'est pas peu, hein, c'est beaucoup, hein. Ah oui, c'est beaucoup.
C'est inquiétant.
C'est inquiétant, bien sûr. Plus vous avez beaucoup d'eau, plus la plante aura la tendance à en pomper beaucoup. Plus vous n'avez pas beaucoup d'eau, plantée sur de la montagne, la plante va émettre beaucoup de racines pour en chercher. Elle va gérer cette eau. C'est pourquoi vous trouvez que, au niveau des sommets de montagne, au niveau de zone, vous trouvez que l'eucalyptus va croître. Mais la vitesse, maintenant, d'accroissement ne sera pas la même que quand vous l'avez au niveau des marais. Parce qu'au niveau des marais, après 3 ans, vous avez déjà un grand arbre. Alors que quand vous êtes au niveau des sommets des collines, ça va vous prendre quelques temps. Et vous avez, mais quand même, vous allez avoir un arbre dans des conditions où les autres espèces ne vont pas donner. Donc, il faut maîtriser l'écologie de l'eucalyptus.
Il y a des années où on a ordonné de déraciner les eucalyptus. C'était quand?
En fait, je pense que c'est depuis les années 2018-2019 qu'on a commencé à déraciner. Et là, bon, jusque maintenant, donc, c'est que l'élan, effectivement, de déraciner, c'est comme s'il y a un relâchement. Mais je ne sais pas si c'est pour quelle raison il y a un relâchement. Mais vous savez que cette politique a été combattue par la population. Vous avez vu un peu partout que la population n'était pas enthousiaste. Et quand il fallait le faire par force, je pense que ça ne peut pas vraiment donner beaucoup de résultats. Aujourd'hui, vous allez d'ailleurs trouver que là où on avait coupé, aujourd'hui, ce sont des bois d'eucalyptus qui se sont développés. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu une autre espèce qu'on a de remplacement qu'on a mis. Il y a des fois où la population n'a pas même déraciné les souches parce qu'on a coupé par force. Et la population s'est tue. Après, voilà les projets qui sont venus. Et maintenant, c'est presque un bois d'eucalyptus. C'est ça qui est encore plus dangereux. Donc, la politique de couper, par exemple, de déraciner les arbres dans un voisinage de 15 mètres d'une source ou bien d'un cours d'eau, moi, je trouve quand même que c'est une politique qui est très pertinente. Mais la politique de déraciner un peu partout les eucalyptus en disant qu'on va les remplacer par des champs, je vous dis que c'est une politique suicidaire.
Comment est-ce que c'est une politique suicidaire?
Suicidaire parce que vous allez manquer du bois. Aujourd'hui, allez au marché, vous allez voir le coût d'un sac de charbon. C'est combien?
80 000 francs.
80 000. Donc, celui que vous amène aujourd'hui un sac de charbon, en tout cas vous l'accueillez à bras ouverts, plus que celui qui vous amène 30-50 kilos de quoi de maïs. Et là, tu comprends que c'est grave. Les gens ne voient pas que c'est grave. Aujourd'hui, le bois, c'est une denrée rare et on n'a pas des alternatives jusque maintenant. Il n'y a pas de gaz, on ne l'utilise pas. Et ça, c'est un problème qui est très essentiel, très sensible. Il suffit que tu vois dans tu voyages à l'intérieur, tu vas voir des femmes qui font des quinzaines de kilomètres pour aller chercher quelques brindilles dans une forêt quelque part. Alors que tu vois que c'est quand même grave. C'est grave le problème de bois. Attendez-vous à des catastrophes au niveau énergétique.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Ce podcast a été produit en partenariat avec Infonir et grâce au financement de la Fondation GRS Biodiversity et du programme de partenariat pour l'eau et le développement de l'IHEDERF. Il s'agit d'un travail collaboratif entre des journalistes et des scientifiques, notamment Arthur Wiesmann et le professeur André Duyman.